magique la radio. 18h30, 19h. Bienvenue au Studio Magique. Studio Magique. Sébastien Lecoeur.
Et notre invité ce soir, eh bien, a fait grandir et bercer des millions d'enfants dans les années 80. C'est un vrai bonheur que de la recevoir ce soir. Elle va passer une demi-heure avec nous. Chantal Goya, bonsoir.
Bonsoir.
Merci mille fois d'avoir accepté l'invitation de Magique Radio. Je suis vraiment très heureux de vous accueillir ce soir à l'occasion de la sortie de ce livre, Des poussières d'étoiles dans les yeux, édité chez Flammarion. On va beaucoup parler de ce livre, hein, puisqu'il raconte votre histoire, une histoire extrêmement riche, pleine de souvenirs. Je suis moi-même très touché de vous recevoir, évidemment, puisque j'ai 31 ans. J'ai donc été évidemment bercé par vos chansons, peut-être même plus que la moyenne. Et ce sont évidemment beaucoup de souvenirs que nous allons évoquer ensemble. On va reprendre les choses dans l'ordre puisque c'est une biographie donc qui reprend votre histoire dès le début. Et j'ai envie de dire que, et vous avez tendance à le dire vous aussi, vous avez eu un peu deux naissances, la première en Indochine.
Oui, c'est vrai, je suis née au Vietnam, là-bas en Indochine et à Saigon. Et j'ai été mise au monde par mon grand-père qui était médecin, radiologue. Et mon papa avait une plantation de caoutchouc, il est français vosgien. Et ma maman, évidemment, qui a été toute petite quand elle est arrivée au Vietnam, elle avait 3 mois.
Et, voilà. vous êtes resté 4 ans en Indochine et c'est pour vous des très très belles années, très beaux souvenirs.
Oui, ce sont des souvenirs très beaux, en même temps très tristes. Il y a un peu de tout mélangé parce que c'était la fin de la guerre des Japonais et puis le début du Viet Cong avant la grande guerre d'Indochine. Donc on a vécu dans des moments évidemment très, très anxieux, très difficiles. Mais j'étais une petite fille assez joyeuse et surtout j'avais quelque chose de très fort en moi et j'avais le conscience évidemment du danger.
Et puis donc effectivement il y a eu cette guerre d'Indochine en 45, vous avez donc dû quitter avec votre famille votre pays natal pour rejoindre la France, Marseille notamment, Toulon et puis Paris. Vous avez tendance à dire d'ailleurs que c'était pour vous un peu comme une deuxième naissance cette arrivée en France.
Mais oui, finalement, parce que j'étais toute petite, j'ai quitté un pays qui était totalement dans la campagne, dans les forêts, dans les EVA, pour arriver dans une ville. Et toute petite, je guettais toutes les toits de Paris parce que maman m'avait expliqué que le Père Noël arrivait par les cheminées. Donc je n'arrêtais pas de regarder le ciel. Et évidemment, je me prenais des réverbères dans la tête. Je faisais tout ce qu'il fallait pas faire. Mais j'étais toujours le nez rivé en l'air.
Les yeux dans les étoiles.
Voilà.
Du titre du livre. Un frère et 3 sœurs dont vous avez dû vous occuper.
Oui, parce que maman était assez malade. Elle nous a eu très jeunes. Moi, quand je suis née, elle avait 18 ans. Mon frère, elle avait 19 ans et demi. Donc, moi, déjà, à l'âge de 13 ans, j'étais comme une petite maman, puisque maman était à l'hôpital. Et c'est vrai que je prenais ça très au sérieux.
Et puis, vous avez dû, en vous occupant de vos petits frères et sœurs, eh bien raconter de belles histoires. Et c'est là que cette passion de faire rêver les enfants est née, peut-être, pour vous.
Oui, c'est vrai que moi, dans mon imagination, dans mon imaginaire, j'invente plein de choses. Et je vis avec quand les moments sont durs. C'est mon imagination, mon imaginaire qui prend le dessus. Mais nous, on n'avait presque rien. Donc avec 2 bouts de chiffon, on faisait des poupées. Et malgré tout, on était très heureux, même avec ces idées très simples.
Alors l'autre étape de votre vie, c'est 1962, ce départ pour l'Angleterre.
Oui.
Avec de belles rencontres sur place.
Oui, mais oui, voilà. Alors comme j'étais en Angleterre souvent l'été, j'avais un copain qui était français, mais qui allait souvent à Londres voir sa belle-famille et sa maman. Et puis tout d'un coup, il m'est venu me chercher dans une des maisons où j'étais et il m'a demandé de venir déjeuner le dimanche. On s'est arrêté devant un beau château. J'ai dit, mais ça, c'est pas possible, on va pas visiter les châteaux d'Angleterre. On en a plein en France. Il m'a dit, mais non, mais c'est là que j'habite. Et c'est là qu'habite mon beau-père. C'était le château de Woburn Abbey. Le duc de Bedford était son beau-père et sa maman, Nicole Bedford. Et évidemment, ce jour-là, il y avait un grand déjeuner où il y avait un acteur de théâtre qui n'était pas très connu, qui était Michael Caine. Il y avait Terry Stamp qui était un acteur de cinéma. Et elle me disait, on attend nos 4 fous. Je disais, c'est qui les 4 fous? Et bien, c'était les Beatles. Figurez-vous que j'ai déjeuné avec eux. Et ben moi, je me disais, il ne faut pas que je fasse l'étonner, c'est ridicule. Donc, je leur parlais. Et comme je parlais anglais, c'était facile. Mais eux, ils étaient très, très, très fiers d'être à côté d'une Française. Parce qu'ils adoraient la France.
Et puis, il y a le retour en France, 1963, avec la rencontre de votre vie, celle avec Jean-Jacques Debout, que l'on situe à tort, hein, d'ailleurs, chez Eddie Barclay.
C'était pas chez Eddie Barclay, c'était chez un ami d'une amie, en fin de compte, qui fêtait ses fiançailles. Et bon, bah, dans cette soirée, il y avait plein de gens qui étaient très habillés. Et au milieu de cette soirée, vers 11h du soir, minuit, sont arrivés, vers 11h du soir, 3 personnes, Eddie Barclay, Jean-Jacques Debout et Sacha Distel. Et évidemment, moi, j'étais extrêmement timide et réservée. J'étais assise sur un canapé avec, un jus d'orange à la main. Et puis tout d'un coup, Jean-Jacques, debout, s'est mis au piano, il a chanté. Et moi, j'ai trouvé ça drôle parce que je me disais, tout le monde est habillé très, très, très mariage. Et lui, il est en pull bleu marine, il s'en fout complètement. Et il avait vraiment une drôle de personnalité, celui-là. Et puis tout d'un coup, il s'est arrêté de jouer, il est allé vers moi et il m'a dit, j'ai l'impression de toujours vous connaître. On se mariera, on aura deux enfants, vous serez célèbre à 30 ans et vous chanterez à l'opéra. Bon, alors là, je dis, celui-là, il est vraiment spécial. Comme drague, on peut pas tomber mieux. Et après, on s'est perdu de vue pendant un an.
Avant de vous retrouver.
Oui, voilà. Il avait écrit une chanson, pense à moi, qui s'appelle Nos doigts se sont croisés et qu'il allait défendre à la Rose d'Or d'Antibes. Et quand je suis revenue à Paris, je suis tombée nez à nez avec lui aux Champs-Élysées. Alors là, j'en revenais pas. J'ai dit, mais c'est drôle, on s'était déjà vu. Il m'a dit, mais oui, je pensais tellement à vous et... Je pars à la Rose d'Or, est-ce que vous voulez m'accompagner? Puis la suite, c'est dans le livre.
Évidemment, et puis il y a eu symboliquement, j'ai envie de dire, ce premier prix pour lui avec cette chanson à la Rose d'Or et la naissance de votre histoire d'amour. Et puis assez rapidement derrière, c'est sans doute la rencontre qui a tout déclenché, qui a fait naître Chantal Goya, vous faire passer de Chantal Deguerre à Chantal Goya. C'est cette rencontre avec Daniel Filipacchi.
C'est vrai que grâce à Jean-Jacques Debout, je voulais être journaliste et j'ai rencontré Daniel Filipacchi. Quand je l'ai vu, il m'a dit je vais lancer un nouveau magazine qui s'appelle Mademoiselle H-Tendre. Ah ben, je peux peut-être écrire dedans. Non, je voudrais vous chantiez et puis on fera beaucoup de photos avec vous. Il a demandé à Jean-Jacques qu'il me fasse une chanson. Moi, j'étais un peu désespérée parce que j'étais pas du tout prête à faire ça. Et dans la rue, en sortant de chez lui, il a vu un petit garçon, tu t'appelles comment, Bernard? Et ça lui a donné l'idée de faire une chanson qui s'appelait C'est bien Bernard, le plus vénard de la bande. Ben, j'ai dit, là, c'est le bouquet final. Mais on avait les guitares de Mickey Baker, qui était un grand guitariste américain. Et après, il a commencé à me mettre en photo dans son magazine Mademoiselle H-Tendre. Et puis là, grâce à cette chanson, j'ai fait une grosse télévision avec Albert Asner. Et là, quelqu'un m'a remarqué. Et Daniel m'a appelé au cahier du cinéma dont il s'occupait. Il m'a dit, voilà, il y a quelqu'un qui t'a remarqué et qui voudrait tourner avec toi, faire un film. C'est Jean-Luc Godard.
Masculin, féminin, c'était ce titre-là. Et vous avez d'ailleurs aussi un prix.
Oui, j'ai eu un prix d'interprétation au Festival de Sorrente, en Italie.
Vous étiez passé à ce moment-là sur le pseudonyme et le nom de scène de Chantal Goya. Un mot sur le pourquoi du Goya?
Parce que d'une part, mes parents ne voulaient pas que je garde mon nom de jeune fille, parce qu'ils me disaient, si ça ne marche pas, ça va être épouvantable dans la famille. Donc on est allé chez des amis qui habitaient Biarritz. Et là, il y avait dans son château un sublime tableau de Goya et le propriétaire a dit à Jean-Jacques, ce petit garçon qui est sur le tableau ressemble tellement à Chantal. Et Jean-Jacques m'a dit, voilà, tu devrais t'appeler Chantal Goya si tu devenais artiste. C'est comme ça que c'est devenu.
Alors on va passer le début des années 70 qui ont été un peu plus compliqués à la fois pour Jean-Jacques qui avait signé une comédie musicale qui avait bien marché mais financièrement ça avait été assez difficile. Puis il y avait le disco qui est arrivé avait un peu pris le pas sur les chansons romantiques que signait Jean-Jacques Debout. Et puis finalement c'est ce qui peut-être vous a permis vous de naître, et quand je dis vous c'est aussi avec Jean-Jacques puisque vous êtes un duo absolument indissociable. C'était en 72 avec finalement une coïncidence.
Mais oui, Marie-Thierry Gilbert Carpentier demande à Jean-Jacques d'écrire des numéros 1 spéciaux avec des scénarios. Et puis ensuite, la chance qui est arrivée, Marie-Thierry demande à Jean-Jacques un numéro 1 pour Carlos. Et Carlos, évidemment, il manque 5 minutes dans le sujet et dans l'histoire. Et à un moment, il m'appelle, il dit, écoute, il nous manque vraiment 5 minutes, est-ce que tu peux venir nous aider? Et là, Jean-Jacques a écrit Adieu les jolis foulards. Et quand j'ai chanté avec les gosses de mon village, ça a été Laura de Marais. Tout le monde demandait cette chanson et cette jeune fille. Et voilà, ça correspondait à quelqu'un qui devait exister à ce moment-là. Et c'est tombé sur moi. Mais il a fallu que je me batte parce que quand j'ai refait le disque sous les conseils de Marie-Thierry Carpentier, mais quand je l'ai amené aux maisons de disques, ils m'ont tous dit non parce que nous, on est dans le disco, on ne fait pas du tout notre truc, les enfants. Ça marchera jamais, c'est pas commercial. Alors là, je disais, c'est dommage parce que le public a envoyé plein de lettres et puis vous voulez pas, c'est triste tout ça, d'un moment donné, une belle histoire pareille. Et sauf un jour, un monsieur qu'on a vu au Rex m'a dit, c'est tellement joli, j'aurais été fière d'en être le producteur. Ah j'ai dit, ça tombe bien, parce que la bande est dans la voiture, personne n'en veut. C'était François Daca, PDG des disques RCA.
Et il a su écouter le public, tout simplement, et 1 million d'exemplaires vendus de cette chanson.
C'était la chanson que tout le monde écoutait dans l'été 75, et puis tout reste a suivi, des albums, des spectacles, tout a suivi comme le voulait Jean-Jacques. En fin de compte, il avait eu raison, parce que j'avais pas tout à fait 30 ans, mais bientôt. Et voilà, tout ce qu'il m'a dit est arrivé. Et les enfants d'aujourd'hui surtout connaissent mes chansons. Je ne comprenais pas comment, puisque moi je passe pas beaucoup à la télévision ni à la radio. Enfin, je m'entends jamais à la radio. Mais là, j'ai compris que le lien le plus magique, ce sont les parents qui apprennent mes chansons. Et aujourd'hui, quand vous voyez, quand je dis aux enfants pendant l'alphabet qu'ils viennent sur scène parce que je voudrais être leur professeur d'un jour, ben, je vous raconte pas, il y a la salle complète qui monte, tous les petits qui montent. C'est comme il y a 20 ans. Hein. La belle histoire, c'est que les parents sont très attendris de voir leurs enfants près de moi, comme eux quand ils étaient petits.
Il y a une vraie osmose finalement entre toutes les générations autour de vous.
Oui.
Vous me permettez une transition facile puisqu'on va marquer une petite pause. Vous ne vous entendez pas à la radio, ben vous allez vous entendre sur Magique, la radio ce soir, puisqu'on va écouter. On ne savait pas quoi choisir, alors finalement on a opté pour un medley de vos plus grands succès que nous allons découvrir tout de suite sur Magique. Et puis on se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission.
Avec plaisir.
Présente-moi tous tes amis. Sont-ils très loin d'ici?
Les trois dernières lettres sont X, Y et Z.
Studio Magique. Studio Magique, jusqu'à 19h, Chantal Goya, Sébastien Lecoeur.
Et avec Chantal Goya, ce soir, nous évoquons bien sûr la sortie de ce livre chez Flammarion, Des poussières d'étoiles dans les yeux, livre de souvenirs d'une vie riche, méconnue, hein, j'ai envie de dire d'ailleurs pour une partie du public. C'est l'occasion de découvrir que, bah, au-delà de Marie-Rose et du personnage que l'on connaît, il y a la vie d'une artiste absolument touchante, émouvante, que nous avons le plaisir de recevoir ce soir. On a parlé avec vous, Chantal Goya, des premières années. On s'est arrêté hein, au début du succès hein, pour vous. Vous commencez à vous avez signé déjà quelques succès, notamment Ce Lapin, Adieu les Julie Foulard. On aura ensuite Bécassine, c'était dans le troisième album en 79. Et puis surtout, il y a ce qui a marqué les esprits, ce qui a marqué toute une génération d'enfants dans les années 80, ce sont ces spectacles que vous avez montés avec Jean-Jacques, qui étaient à l'époque des spectacles absolument pharaoniques, avec des budgets illimités, des décors, des costumes soignés à la perfection. C'était votre cœur, c'était votre vie, ces spectacles-là.
Ben oui, j'étais tellement heureuse parce que Jean-Jacques est un grand metteur en scène et il a tout de suite imaginé des souliers qui volent, la planète merveilleuse, le mystérieux voyage de Marie-Rose, le château hanté. On a ouvert une porte vers le musical pour les enfants, mais il fallait que cette porte soit habillée des plus belles choses pour eux. Et il a eu raison puisque, regardez, 30 ans après, tous ces costumes sont là, ce sont des originaux. Tous mes costumes sont là, toutes les robes, tout ce qui a été créé, qui était un budget énorme, est toujours présent. Et aujourd'hui, si je fête mes 30 ans de scène, c'est aussi parce que j'ai toute la chance d'avoir ces beaux décors, ces beaux costumes, ces personnages, et qu'on fait vraiment une folie dans tous les zéniths. Ça fait drôle de revoir tout ça et de remettre en scène comme si on n'avait jamais arrêté. Aujourd'hui, ce soulier qui était dans un hangar, dans une ferme quelque part, il est sur scène. Il a les mêmes yeux, il a la même tendresse et surtout l'émotion dans la salle est énorme.
Le mystérieux voyage de Marie-Rose qui reste peut-être le spectacle qui vous tient le plus à cœur.
Oui, parce que ce spectacle est l'histoire de la vie. Donc on fait tous un mystérieux voyage et bon, évidemment c'est imagé parce que Jean-Jacques est un poète. C'est un très beau voyage et voilà, c'est une histoire qui est imagée pour les familles, mais ce sont des belles musiques surtout, des très belles chansons et tous les orchestres ont été joués par tous les violons. Enfin, c'est un travail de fabuleux qui a été fait dans les années 80 et que je ne regretterai jamais.
Puis vous avez des enfants sur scène, hein, ça c'est ce qu'il faut préciser
oui,
aussi.
Oui, il y a 7 enfants, enfin il y a des équipes en double. Pour eux, c'est des grands souvenirs. Moi, j'ai souvent revu tous les anciens petits-enfants du Soulier qui vole. Et bien, dans le Soulier qui vole, vous aviez une petite blonde avec des boucles, c'est Rebecca Hampton, qui joue dans Plus belle la vie. D'autres qui sont devenus des avocates, qui sont devenus des médecins. Ça me fait drôle, mais parce que je les ai connues, elles avaient 7 ans, 8 ans, et elles ont aujourd'hui 28 ans, 30 ans.
C'est l'amour, l'amour des enfants et l'amour de l'être humain, j'ai envie de dire, d'une manière
oui,
générale.
Oui, voilà, parce que je crois que dans la vie, il faut donner, et puis on reçoit, mais il faut quand même donner. Et moi, je suis quelqu'un qui a toujours donné, mais ça fait partie de ma vie, hein. c'est pas un effort, ça fait partie de ma vie, et j'aime tellement le public, et que le public a toujours su tout ce que nous représentions, et ils ont toujours été présents.
On marque une petite page de pub
oui.
Et on va se retrouver juste après évidemment pour la suite de ce Studio Magique.
D'accord.
Studio Magique, 18h30-19h, Chantal Goya, invitée du Studio Magique.
Avec Chantal Goya donc dans ce Studio Magique jusqu'à 19h pour parler de ce livre des poussières d'étoiles dans les yeux, livre de souvenirs édité chez Flammarion dans lequel on découvre la vie d'une femme passionnante, artiste mais femme également passionnante. Il y a de très belles photos d'ailleurs Chantal Goya, nous n'en avons pas encore parlé. Honnêtement, ce que vous ne dites pas dans le livre c'est quel est votre secret de jeunesse, parce que franchement quand on regarde les photos on a l'impression que vous ne bougez pas d'année en année. Il va falloir nous expliquer Chantal Goya.
Bon, moi je dors bien déjà, je dors tôt. 11h je suis déjà dans mon lit en train de dormir, je fume fume pas et je bois pas. Alors je prends des litres d'eau à boire, je mange sainement, je me fais moi-même la cuisine. C'est pas compliqué, hein, parce que j'étais habituée comme ça aussi.
On va reprendre le cours de l'histoire. Alors évidemment, il y a eu le milieu des années 80 qui était un petit peu moins facile pour vous. On va pas revenir sur tout ce qui a causé des soucis. Il y a eu simplement, parce qu'on a parlé tout à l'heure de ces spectacles pharaoniques que vous avez proposés au public, et vous l'avez dit, vous comptiez pas. Ça veut dire que c'est aussi ce qui fait que financièrement il y a eu des soucis?
Non, c'est pas tout ça, c'est une émission de télé, c'est tout. On savait ce qu'on faisait, mais le problème c'est que dans cette émission de télé du 13 décembre 85, en 3 minutes, on a tout perdu. Alors bon, qu'on perde du matériel, c'est une chose triste, mais ce qui était le plus triste, c'était de perdre toute son équipe, parce que malheureusement, tout le monde est tombé au chômage, et ça a rendu malade Jean-Jacques.
Oui, pour vous, c'était
moi,
un déchirement.
Moi, quelqu'un de plus fort, je me suis dit, il faut pas que je tombe moi aussi, parce que alors là, c'est fini, si on tombe tous les deux, puis moi, je sais pas gérer les dépressions, je sais pas la gérer, j'ai jamais eu. Bon, ben, écoutez, je suis redevenue comme tout le monde, c'est-à-dire que j'ai repris mon rôle de femme et de maman et de mère de famille et d'épouse, et puis je me suis dit, revenons dans la vie réelle, qui est aussi ma vie, hein, quand même. Et puis, il faut remonter les manches et puis recommencer différemment. Roland Hubert m'a dit, ma petite Chantal, l'année prochaine, je reloue le Palais des Congrès en 86. Eh bien, c'était bon des mondes. Et le public me suppliait de continuer, de ne pas arrêter.
C'est ce que les gens ne savent pas forcément. On a l'impression que les choses se sont arrêtées pour vous, ce qui est loin d'être le cas. Il s'est passé beaucoup de choses, et notamment à l'étranger. On parlera du Liban dans quelques instants.
Vous savez, notre métier, c'est compliqué, parce que quand on marche, on dérange. Quand on marche pas, ben alors elle ne vaut plus rien. J'ai toujours dit que une salle avec un public qui vous aime et qui vous suit, c'est plus important dans la vie pour une artiste. Vous pouvez mettre tous les millions sur elle, si ça marche pas, ben ça marche pas, hein.
Exactement.
Là j'en ai eu la preuve, on n'avait pas de millions et on a continué à marcher.
On va marquer une dernière pause alors en musique, et je vais vous proposer, et ça va pas être forcément facile pour vous, parmi tous les grands succès que vous avez offert au public durant cette longue carrière, ces 30 ans de carrière, de choisir la chanson coup de cœur, votre chanson, celle qui vous tient le plus à cœur depuis le début de votre carrière, et c'est celle que nous allons écouter pour marquer une petite pause.
Ben moi je crois que bon, tous mes personnages, on les connaît, ils resteront intemporels, mais celle qui a commencé par être la première chanson, c'est Adieu les jolis foulards. Je trouve que celle-ci, quand je la chante, là vous avez beaucoup de générations qui sont émues, parce que c'était leur première chanson.
C'est une chanson que vous n'imagineriez pas ne pas mettre dans un de vos spectacles.
Elle est dans tous mes spectacles à la fin, même si on n'a pas la musique, je la chante a cappella avec la salle. Il y a toujours cette chanson, c'est ma chanson porte-bonheur.
Alors on va l'écouter ensemble pour marquer une dernière pause, et puis on conclura cette émission dans un instant avec votre actualité, puis on parlera de ce que vous avez fait à l'étranger durant cette période qui a semblé si absente à beaucoup de monde et qui était loin de l'être pour vous. Ce sera dans un instant.
Oui.
Chantal Goya, invité du Studio Magique jusqu'à 19h, Sébastien Lecoeur.
Et dernière partie de cette émission en compagnie de Chantal Goya, juste après avoir écouté cette belle chanson Adieu les jolis foulards, qui était donc votre chanson porte-bonheur. Vous l'avez dit, c'est celle avec laquelle tout a commencé pour vous, alors vous n'imaginiez pas du tout hein, cette carrière de chanteuse. Avec le recul, c'est quoi? Il n'y a évidemment aucun regret?
Mais non, il n'y a aucun regret. Il y a surtout deux personnes qui ont tout vu à l'avance dans ma vie. C'est Jean-Jacques Debout, quand il m'a dit vous serez célèbre à 30 ans. Ça correspond à Adieu les jolis foulards. Et puis quelqu'un d'autre qui est une grande dame de la chanson, qui était une grande amie, c'était Barbara, qui en 82, quand elle est venue voir La Planète Merveilleuse, en me voyant, elle m'avait dit « ça va être dur pour toi, mais je sais que dans 20 ans, tu les retrouveras tous et que tu seras comme une institution ». Ben vous voyez, c'est touchant, parce qu'ils avaient tous les deux raison en fin de compte. Moi, j'ai continué et le hasard a fait que... Et le hasard et la chance m'ont fait que j'ai retrouvé tout un public de jeunes parents qui étaient les petits d'hier, comme je leur dis. Et c'est vrai que c'est encore plus fort qu'avant.
Comment vous expliquez justement ce retour prévu par Barbara et qui a lieu depuis le début des années 2000 hein? Il y a un vrai retour en grâce.
Alors moi, je vais vous dire une chose toute simple, c'est le public qui me l'a dit, parce que j'aurais posé la question. Ils m'ont dit, on a été tellement triste en 85 de voir qu'on ne te voyait plus, et que les gens disaient des méchancetés sur toi, il y avait un maillon de café. Eh bien, grâce à toutes les boîtes de nuit en 2000, le maillon s'est ressoudé. Et là, ce maillon soudé, bah, c'est une chaîne d'amour qui est encore plus forte qu'avant, parce que ce sont devenus des jeunes parents et qui savaient qui j'étais et qui ont rêvé avec mes chansons. Donc ils voulaient faire rêver leurs enfants. Et voilà, c'était ça le lien invisible, mais le plus fort, c'est ça.
Et la chaîne n'est pas prête de se rebriser cette fois-ci. C'est certain. Juste un mot sur cette période donc où on vous a moins vu médiatiquement, mais vous avez continué d'avoir un succès incroyable, notamment dans les dom-toms, vous le disiez tout à l'heure. Et puis le Liban, pour vous, c'est une page très importante de votre vie.
Oui, parce qu'en 91, des parents qui habitaient Beyrouth qui m'ont dit « Si vous saviez combien on vous aime là-bas, et vous savez, il faut venir parce que ça a été la guerre et pendant toutes ces années de guerre, ils regardaient Chantal Goya dans les abris. » Et là, j'ai dit « Il faut que j'y aille. » Et puis j'y suis allée, évidemment, avec Jean-Jacques, un ami à nous, Raymond Bessari, qui est libanais, et ma fille. Et j'étais totalement émue de voir tout ce public qui était là et de voir cette ville, ce pays qui était je peux même pas, il n'y a plus de mots parce qu'il n'y avait plus de maison, il n'y avait plus rien, mais on voyait les gens qui couraient partout, qui étaient toujours là, présents, qui étaient gentils avec moi et qui voulaient m'inviter chez eux. Alors j'allais chez eux, il n'y avait évidemment plus grand chose, mais ils étaient tellement contents de m'avoir chez eux. Et moi aussi. Et puis j'ai fait 10 galas et ça représentait plus de 100 000 personnes. Mais on l'a fait avec notre cœur, hein. C'était pas une question d'argent. On a dit on va y aller pour leur faire plaisir avec toute l'équipe qui était solide et soudée avec moi. Depuis ces années-là, 91, j'y vais tous les ans. Je suis encore allée là au mois de septembre. Et c'est toujours une grande fête et un grand bonheur. Alors c'est pareil, ils ont grandi, ils étaient petits. Maintenant, ils sont des jeunes parents. Et c'est la même folie avec leurs enfants.
Et c'est l'universalité finalement de l'amour, de la féerie, de la magie d'une manière générale.
Oui, puis vous savez, les enfants, ils ont un même cœur. Et il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de religion. C'est un même cœur. Et ça, c'est très important.
Alors vous avez remonté, c'était aussi votre rêve, le mystérieux voyage de Marie-Rose, il y a quelques mois de cela. Il y a eu ce spectacle Happy Birthday Marie-Rose pour célébrer ses années de carrière.
Et voilà, et puis on vient de signer pour 2010 le Château Hanté au Palais des Congrès. Il y aura une grosse tournée derrière, donc on viendra à Limoges.
Ah, vous viendrez à Limoges. L'engagement est pris. L'engagement est pris, on sera ravis de vous accueillir évidemment ici à Magique la Radio. En attendant, pour se replonger dans votre vie, dans tout cet univers, il y a le livre bien sûr chez Flammarion, Des poussières d'étoiles dans les yeux. Un petit mot sur le titre, pourquoi avoir choisi ce titre-là?
Ce titre, il est tout simple, il vient d'une maman qui était à Lille, qui m'avait vue au zénith de Lille, et puis elle pleurait tellement, elle avait tellement d'émotions quand elle a vu arriver ce gros soulier. Son petit garçon lui a dit, mais maman, c'est Marie-Rose, tu peux pas pleurer. Et elle a dit, mais non, je pleure pas, j'ai des poussières d'étoiles dans les yeux. Et quand elle me l'a dit, j'ai dit, ben voilà, c'est exactement tout ce qui est arrivé dans ma vie, des larmes, des rires, des pleurs, mais aussi surtout des poussières d'étoiles.
Et grâce à vous, Chantal, nous allons également avoir le plaisir de gâter nos auditeurs ce soir, puisque nous allons offrir à certains d'entre eux, d'une part, bien sûr, votre livre aux éditions Flammarion, également le DVD de vos spectacles, de vos trois plus beaux spectacles, ou encore le CD de vos plus grandes chansons. Il suffit pour cela de nous appeler avec le mot de passe de ce soir, Marie-Rose, Marie-Rose, à nous communiquer au 05 55 14 10 10 pour tenter de repartir avec livre, DVD ou CD. En tous les cas, on va vous souhaiter beaucoup de bonnes choses. Je le rappelle aussi, il y a un joli coffret qui sort.
Oui, il y a un coffret tout rose, plein d'étoiles, qui est le coffret magique de Noël. Voilà, ça sera limité, mais c'est un beau cadeau que m'a fait la maison de disques et j'en suis très heureuse.
En tous les cas, on était vraiment ravis et touchés de vous avoir avec nous ce soir, Chantal Goya. Merci d'avoir pris ce temps.
Merci à vous en tout cas.
On vous souhaite.
Je salue et j'embrasse tous les enfants de Limoges et de la région, évidemment.
Puis ils seront heureux et très impatients de vous accueillir en 2011 pour ce nouveau spectacle du côté du Zénith, évidemment, chez nous. Et puis d'ici là, plein de bonnes choses à vous.
Merci en tout cas. Merci à vous tous.
À très bientôt.
Une belle soirée.
À très bientôt. Au revoir.
Merci.